J'ai une fulgurance. J'ai trouvé une nouvelle technique pour le temps, mon pote. J'utilise ma montre. C'est pas con, hein.
Pouah. C'est pas un peu réac, ça?
Putain, je suis content qu'on l'ait sur bande, cette intervention. Ça va nous faire un petit easter egg de début ou de fin, ça va être bien.
Allez, on y va.
Nipédu.
Niputu. Niputu. Nipédu.
Le podcast.
Le podcast.
École.
École.
Éducation. Numérique. Nipédu.
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 Hey, bienvenue dans Nipédu. Nipédu, saison 11, épisode 7. Et tout d'abord, merci d'écouter Nipédu, le podcast qui décode les transformations de l'école. Et dans cet épisode, il sera question d'école anxiété. Vous avez bien entendu, j'ai pas mal prononcé. École anxiété avec un L. Qu'est-ce que c'est que cette notion, ce concept, ce néologisme, ce mot valise? Bah, vous le saurez en écoutant cet épisode. Et d'ailleurs, à propos d'anxiété, je commence tout de suite, ils sont là, hein, vous les entendez pas, vous avez l'habitude, vous savez qu'ils attendent en train de rire dans mon dos sur la petite biographie que je leur ai préparée. Et j'ai essayé de réfléchir à ce qui leur cause le plus d'auto-anxiété sur eux-mêmes. Et je me suis dit que pour Fabien, même s'il fait des efforts, l'anxiété pour lui, c'est la non-maîtrise complète et absolue de tous les tenants et aboutissants d'un projet qu'il dirige, que ce soit au taf en tant que directeur du pôle production chez École Huma ou dans ses loisirs. Par exemple, je sais que l'idée même de sauter le moindre exercice dans sa séance de sport, CrossFit ou un autre nom que j'ai pas retenu, ça lui file vraiment de puissante angoisse, je vous le dis. Passagère, mais monstrueuse. Bon, il faut lâcher prise un peu, Fabien.
Tout est faux.
Dans le temps, on a compris. Jean-Philippe, lui, l'auto-anxiété, en tout cas, plutôt ce qu'il taraude, ce qui l'empêche de dormir, c'est que sa pensée et son verbe se désarticulent, qu'il n'arrive plus à mettre la bonne terminologie, la bonne phraséologie sur ses pensées les plus précises. Ce serait grave dans ses missions de professeur HOP associé responsable de l'unité enseignement, apprentissage et évaluation. C'est juste ça, Jean-Philippe ?
Ouais, co-responsable, hein, parce que c'est pas moi le patron quand même.
Soyons justes. Mais ça serait encore plus grave en tant que podcasteur. Je suis sûr qu'il en a des sueurs froides rien que par le fait que je l'évoque ici. On perd pas ses mots, Jean-Philippe ?
Non, mais c'est vrai, t'as raison, non, t'as visé juste, c'est vrai, j'aime pas mal formuler les choses, ça m'angoisse.
On a bien compris. Pas d'anxiété pour le moment de mon côté en tant que tout frais, tout petit directeur d'atelier Canopé, mais j'avoue que mon anxiété à moi, en vérité, c'est de pas vous avoir tous les deux à mes côtés, mes camarades, pour cet épisode de Nipédu et tous les autres.
Cœur sur toi, Régis.
Ouais. Peut-être qu'une autre anxiété, on va me dire dans cet épisode, vous verrez que je radote. C'est une vraie anxiété, ça. C'est pas de radoter, c'est de perdre un peu la boule. On va voir. On file du côté du fun fact de la rédac.
Le fun fact de la rédac.
Fabien, ton fun fact?
On l'avait pas dans les items de la rubrique que tu vas nous présenter tout à l'heure, mais aujourd'hui a eu lieu, une cyberattaque sur 30 établissements, 30 lycées de la région parisienne, sur Pronote et sur les messageries des lycées. Voilà. Donc si ça nous file pas un peu d'école anxiété, bah voilà. Hasard du calendrier, on est en plein dans le thème de l'émission.
Mais carrément. Jean-Phi, ton fun fact?
Ouais, moi c'est un fun fact que m'a offert ce cher Fabien dans les ressources qu'il a trouvées et partagées dans le cadre de la préparation de cette émission. Il a trouvé une intervention de Barbara Cassin que j'aurai l'occasion de citer un peu plus loin dans l'émission, mais elle a été directrice d'édition d'un des ouvrages mais vraiment sur lequel j'ai passé le plus de temps pendant ma thèse. Et s'il y a un moment d'une scolarité qui est un moment un petit peu anxieux, c'était le moment de cette thèse. Alors par contre, vu que j'ai pris beaucoup plaisir dans ce livre, cette anxiété n'a rien à voir avec Barbara Cassin. Au contraire, c'était quelqu'un qui me faisait beaucoup de bien, mais néanmoins qui m'a rappelé une période pleine d'incertitudes et d'une certaine anxiété.
Ok. Moi, fun fact ou pas, ou si, fun fact quand même, c'est le contraste entre cet épisode, l'école anxiété, et notamment moi, mon épouse qui est prof d'école depuis pas longtemps, qui va avec un école enthousiasme de ouf. Une façon de dire aussi que dans cet épisode, vous allez voir, on va traiter de pas mal d'anxiété autour de l'école. mais sans oublier qu'il y a beaucoup de profs qui sont heureux d'aller tous les jours au taf. Hein, on pense à un certain Bruno qui nous écoute notamment tous les mois, et à Fabien, on se dit toujours, oh, c'est tellement le prototype du prof qui a envie d'aller en classe tous les jours et qui se sent bien avec ses élèves et qui va faire toute sa carrière comme ça, ça fait plaisir. Donc, hommage en tout cas à tous ces profs-là, de ces profs heureux. Le sommaire de l'émission, Fabien ?
Eh bien écoute, après une parole au poditeur, j'aurais tendance à te rendre la parole pour la FAQ du poditeur. Régis, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Ouais, ben j'ai sélectionné tout un tas d'items qui pourraient être source d'école anxiété. Je vous ai demandé de les classer et on va débriefer tout ça ensemble.
Ben, hâte de débriefer avec toi. Jean-Phi, du côté de la chronique de Nipédu.
Ouais, je vais vous dire qu'il ne faut plus attendre demain, mais plutôt après-demain.
Attends, tu m'as fait des nœuds au cerveau là. Sur la FAQ de la rédac, moi je vous parlerai, je vais la renommer FAQ de la réac, restez jusqu'à cette chronique et puis on se retrouvera avec une reco feel good. Si toutefois vous avez l'impression qu'on a déjà parlé de cette reco là, envoyez-nous un message sur le répondeur de Nipédu.
Allez, on file vers la parole au poditeur.
La parole au poditeur.
Alors, la parole au poditeur, ce mois-ci, nous avons un petit message de Yann Houry, que nous savons être un fidèle poditeur, qui est directeur de l'innovation pédagogique et technologique au lycée français international de Hong Kong. On nous écoute jusqu'à Hong Kong, les gars, c'est quand même un truc de fou. Et donc, en fait, c'est surtout qu'il a profité de l'écoute mensuelle de son petit Nipédu pour nous faire un petit tweet et dire que maintenant, non seulement on en pouvait écouter, mais aussi lire Nipédu grâce à des petites mises à jour sur les lecteurs de vos podcasts favoris qui donc font de la transcription de l'oral. Et voilà, donc un petit merci à Yann. Puis moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a permis de revoir l'image de l'émission Pharmacon qui était vraiment une super image. Merci Fabien.
Un talentueux architecte intelligence artificielle générative d'images. Il fait ça aux petits oignons, c'est top. Non, moi je voudrais juste rajouter que vous pouvez aussi nous lire dans Nipédu tous les mois dans les cahiers pédagogiques avec la chronique de Nipédu sur du vrai papier qui sont bons à l'ancienne. Donc n'hésitez pas aussi de ce côté-là. Et puis toujours sur Yann Houry, n'hésitez pas à l'écouter. Il a lancé son premier podcast, je crois. En tout cas, c'est une série de 10 podcasts qui s'appelle Itinéraire d'un lecteur gâté. On vous met ça bien sûr dans les notes de l'émission. Ben on file vers la FAQ des poditeurs.
La FAQ du poditeur.
École anxiété, un sujet dans le vent. Dans le vent ou pas, on va le voir, mais d'abord, c'est quoi la FAQ des poditeurs, cher monsieur maître?
Alors, la FAQ des poditeurs, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas déjà, c'est que ben, c'est votre FAQ, c'est-à-dire que si vous avez une question école, éducation, numérique, formation, recherche, une question qui vous occupe beaucoup l'esprit à tel point qu'elle vous taraude et qu'elle vous empêche de dormir, bien évidemment, il y a un endroit où vous en soulagez de cette question et ça s'appelle le répondeur de Nipédu. Et le répondeur de Nipédu, vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez répondeur Nipédu et en un ou allez max deux clics, vous avez de quoi enregistrer votre petite question dans une minute trente, et puis bah voilà, nous on se saisit de cette question et puis on la bosse et puis on essaye d'en faire une émission. Et puis pour cette émission, Régis, nous avons la question de
Lucas. Allez, on l'écoute.
Salut Régis, Jean-Philippe, Fabien. Je suis content de presque vous parler. J'ai hésité à vous envoyer ce message, mais bon. Alors voilà, j'ai l'impression d'entendre toujours plus d'inquiétudes sur l'école, que ça soit en discutant avec les collègues, en famille ou aux infos. Les profs agressés, le niveau qui baisse et les élèves qui seraient nuls, le harcèlement scolaire qui mène à des suicides d'élèves, les profs qui n'ont plus d'autorité, le boulot qui fait plus envie, on recrute en urgence des contractuels pas formés, bref, tout irait mal. Un peu angoissant, je trouve ça anxiogène, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais vous trouvez pas ça flippant, vous? Enfin bon, j'aimerais bien un épisode là-dessus, enfin, même si je sais que vous êtes plutôt positif dans Nipédu, hein. D'ailleurs, moi je le reste, hein, j'adore bosser dans mon école tous les jours et j'adore mes élèves. Donc voilà, c'était Lucas en direct de mon bahut, et puis je vous dis merci et à bientôt.
Alors déjà, un grand merci à Lucas pour cette question-là qui, pour le coup, nous a vraiment taraudé sur ce sujet. Un message qui date d'un petit bout de temps maintenant, hein, ça nous a laissé le temps de faire maturer ce sujet, de construire vraiment une thématique autour de ces angoisses, de ces inquiétudes liées à l'école. Et j'aimerais d'abord dire un truc éditorialement. Quand on choisit un message d'auditeur, d'auditrice pour en faire une thématique, on va jamais vers un sujet d'actualité. Enfin, on l'a fait une fois, en tout cas, sur l'IA, où on a senti qu'il fallait y aller tout de suite. Mais on se laisse le temps, justement, de décoder, de recoder ces messages à la NIPEDU, hein, le fameux podcast qui décode les transformations de l'école. Et quand on fait ça, quand on chausse nos lunettes autour de ces questions, on a souvent des signaux, ça clignote d'un peu partout. On se rend compte que ouais, le sujet, il est là, en fait. Il faut juste lancer les bons hameçons. Et en tout cas, c'était le cas sur ce sujet, hein. Une fois qu'on avait ces lunettes sur le nez, j'ai envie de dire, toutes ces questions autour de l'anxiété nous ont frappés. Ça a popé de partout. Il y a surtout Fabien qui fait la curation des ressources et qui nous amène tout ça dans le Notion. Bref, d'où ce titre. On a décodé ce sujet, on y a mis ce mot de décolle-anxiété, ce néologisme amené par Fabien qui nous a tout de suite tilté aux oreilles. On s'est dit, putain, il a mis le bon mot sur la chose. Par analogie, vous l'avez compris, hein, avec éco-anxiété autour de l'écologie. Et une petite définition pour fixer les idées. Donc en regardant la définition d'anxiété, c'est défini comme une angoisse à caractère pathologique qui est née d'une crainte ou d'un péril imminent et incertain. Moi, ça m'a tapé, là, c'est le imminent et incertain, qui provoque un désarroi paralysant, souvent accompagné de symptômes physiques. Donc voilà ce que veut dire le mot anxiété au plus fort du terme. Et donc l'idée autour de cette FAQ des poditeurs, école anxiété, un sujet dans le vent, je me suis dit, tiens, si on mesurait cette école anxiété avec une échelle des angoisses portée par et sur l'école, et donc j'ai proposé aux gars une échelle de 0 à 10, décolle anxiété à l'image, vous l'avez entendu dans le vent, de l'échelle de Beaufort qui mesure la force des vents. Je ne vais pas tout vous détailler, mais on va dire de ce qui provoque le moins décolle anxiété, on va dire de 0 à 1, vent d'enthousiasme, jusqu'au plus fort, qui sème le vent, récolte la topette, qui pour nous aurait un degré décolle anxiété de 9 à 10. Et selon la méthodologie scientifique bien connue qui mène aux débats les plus fertiles entre nous trois. Donc, voici la sélection après tri et calcul de moyenne autour de tout ça. Et on va commencer, les gars, par ce qui nous rend le plus éco-anxieux, tous les trois, en tout cas. Donc, rien ne recueille 3 fois 10 parmi tous les items que je vous ai proposés. Mais on va commencer entre 10 et 7, c'est-à-dire entre qui sème le vent, récolte la tempête et ce qu'on a appelé au vent mauvais. Et on commence avec une moyenne de 9,6 sur 10, la vétusté des locaux. Tiens, allez, je lance ça pour toi, Jean-Phi. La vétusté des locaux, ça t'angoisse vraiment beaucoup ?
Ouais, bah en fait, puis je trouve qu'il y a bah déjà pour plein de raisons. Bah déjà parce que ça crée un inconfort très très grand à un moment où on n'est pas censé être dans l'inconfort. Enfin, je veux dire, on peut ni enseigner ni apprendre si on n'est pas au chaud, si on se sent pas dans un endroit en sécurité, j'allais dire. Enfin, je pense que voilà. Et puis il y a quelque chose de très symbolique. Moi, je trouve dans les locaux, c'est-à-dire que on peut pas là aussi croire qu'on a une institution qui nous soutient en tant qu'enseignant, ni une institution qui nous veut du bien en tant qu'élève, si on rentre dans des locaux qui sont pas en bon état. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un truc. Voilà, je crois que je vais le redire comme ça. Je pense que c'est vraiment aussi la portée symbolique que je trouve la plus délétère pour créer un climat qui soit pas anxieux, enfin qui soit serein pour nos élèves et nos enseignants.
Ouais. On a vu ce phénomène tout récemment, hein, Fabien, toi qui es peut-être un peu plus sur les réseaux que nous pour des raisons professionnelles, sur Insta, ces élèves et ces enseignants de certains établissements qui alerte là-dessus en faisant des toutes courtes vidéos en disant « Tiens, voilà ce que c'est d'être dans mon établissement, il n'y a pas de chaise, la fenêtre se ferme pas, le toit des toilettes tombe. » Tu as vu tout ça, j'imagine, Fabien ?
Ouais, j'ai vu tout ça, j'ai vu les rongeurs aussi, c'est vrai que c'était des images hyper impressionnantes. Juste un petit point avant de rebondir sur cette question de la vétusté des locaux et du fait que ça puisse recueillir une inquiétude partagée entre tous les trois. C'est un peu heure et malheur des statistiques et de nos calculs des trois tiers, hein, parce que heureusement que nos poditrices et poditeurs ne voient pas la liste de ces items qui peuvent provoquer de l'école anxiété, parce que commencer par la vétusté des locaux par rapport à d'autres items, c'est quand même... Je ne sais pas si c'est très heureux, mais en tout cas, c'est là-dessus que tu nous invites à nous exprimer. C'est rigolo parce que à partir du moment où tu as parlé d'échelle d'école anxiété, je me suis dit... il y a certainement une échelle pour mesurer l'éco-anxiété qui existe. Et effectivement, elle existe. Donc, pour nos auditeurs les plus curieuses et curieux, je vous invite à aller regarder du côté de l'échelle de Hogg, l'échelle d'éco-anxiété de Hogg. C'est une échelle qui est sur 4 niveaux de réponse. Et ces 4 niveaux de réponse, ils sont classés en 4 familles. Et ces 4 familles, c'est des symptômes, hein, en gros, symptômes affectifs, cognitifs, comportementaux, tu en parlais, Régis, et conatifs. Donc, parmi ces symptômes, il y a, tu vois, quand j'y pense, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à dormir, je suis effrayé. Je pourrais pas dire que la vétusté des locaux génère ce genre de sentiment-là chez moi. Pour autant, je suis obligé de rejoindre le constat de Jean-Phi et j'aime bien la portée symbolique parce que je trouve que quand on parle aussi de cette anxiété, la dimension symbolique est importante et la question de l'accueil, la question du sentiment de sécurité aussi hein, par rapport à la vétusté des locaux, c'est quelque chose d'hyper important. Je crois que c'est Maslow, hein, la pyramide qui va parler des besoins, bah, ce besoin de se sentir en sécurité. Il n'y a pas le besoin de se sentir accueilli dans la pyramide de Maslow, mais effectivement, et pour avoir travaillé moi en tant que personnel de l'éducation nationale dans des environnements post-staliniens, effectivement, je trouve qu'on bosse mieux là où on se sent bien, et ce bien-être, il est apporté aussi par la qualité de l'environnement dans lequel on travaille. Jean-Phi, je te voyais réagir.
Ouais, parce que du coup. En fait, je vais te le dire comme ça. Enfin, tu vois, en fait, dans la manière dont tu te positionnes, toi, tu disais, bah, c'est peut-être pas le truc qui, moi, me rend le plus anxieux. Mais moi, je serais quand même pas complètement surpris. En tout cas, en fait, je vais le dire comme ça. Moi, pour le coup, je serais enseignant. Ou même élève, hein, d'ailleurs, peut-être. Et j'aurais à passer le plus clair de mon temps dans un établissement vétuste. Je pense que vraiment, ça pourrait faire partie des premières choses qui m'angoissent. Et qui crée de l'anxiété chez moi, tu vois. Et dans le sens où, pour le coup, c'est omniprésent. Enfin, tu vois, c'est le lieu dans lequel t'es, quoi. Et c'est vrai que, du coup, à la fois, j'entends hein, la précaution que tu prends de dire, étant donné la liste des choses qu'on avait, je sais pas si c'est peut-être le truc le pire, mais ça peut-être être un des trucs les plus envahissants. Enfin, en tout cas, quelque chose de très envahissant, il
me semble. Oui, et pour le coup, qui touche vraiment tout le monde. Parce que pas très loin dans notre liste, je vais passer sur manque de moyens qu'il y a à tout ça, mais juste derrière, on a par exemple le harcèlement. Donc j'imagine que tu pensais à des choses comme ça, Fabien, en disant, évidemment, quand on parle de physique ou d'attaque physique, on verra après, c'est des questions qui, dans le classement, iraient plus haut, mais il se trouve que dans nos petits classements à nous, ça se passe comme ça. Mais vas-y, Fabien, oui.
Non, mais du coup, comme on va prendre un peu plus de temps sur ce premier tiers, je trouve que c'est intéressant ce que dit Jean-Phi, parce que je vais abonder dans ton sens, ce qui n'est pas très radiogénique, mais je vais dans ton sens dans la mesure où, et Régis parlait du harcèlement notamment, où je pense qu'on... Enfin, avec les effets politiques qu'on ne va pas détailler ici, il y a une volonté de s'attaquer à... Tu vois, à ce qui est très visible, à ce qui est très sensationnel, presque à l'évidence. Et en fait, je trouve que de taire ce qui pourrait relever du détail ou du symbolique ou du, c'est la somme de ces détails et de ces, tu vois, et de ces petits riens qui font justement le bien-être à l'école. Et ça m'a fait penser à une référence que j'adore, c'est le site Ne tournons pas ou ne tournons plus autour du pot, qui est un site belge autour de la question de l'hygiène et des toilettes scolaires. Et enfin, typiquement, qui n'a pas assisté à ce conseil d'école dans lequel on discute des toilettes scolaires pendant des heures et des heures, parce que les parents d'élèves notamment vont dire que bah, les élèves, ça les bloque complètement. Donc j'aime bien qu'on ait choisi vétusté des locaux. Finalement, merci à tous les deux de m'avoir ouvert les yeux.
Je vous propose qu'on aille dans ce qu'on a mis moyennement, ce qui nous rend moyennement école anxieux. Dans notre échelle, on a appelé ça le vent tourne. À la croisée des chemins de l'école anxiété. C'était pour des notes de entre 6 et 4, si on descend dans l'échelle. Et il y a quand même un phénomène très effrayant de ces derniers temps, c'est les agressions physiques qu'on a pu voir dans les médias, notamment de chefs d'établissement. Et là, on tape effectivement vraiment dans les phénomènes très, très durs. Alors, je veux bien vous entendre là-dessus, l'un ou l'autre, peut-être celui qui lève la main le premier ou je désigne. Non, je vois que Jean-Phi, tu te lances.
Ouais, je peux y aller. Ouais, c'est marrant parce que j'aurais envie de le situer justement par rapport à ce qu'on disait plus haut. En fait, si tu veux, par rapport aux agressions physiques, il y a quelque chose qui, en fait, si tu te mets à la place de l'individu qui subit l'agression, il peut pas y avoir pire. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur quelque chose de 10, mais à 10 sur l'échelle de 10, quoi. Mais après, il y a mine de rien, et là je crois que ça rejoint ce que disait Fabien un peu plus tôt, sur ces phénomènes-là, heureusement, ça reste des événements qui sont très impressionnants, mais qui sont quand même marginaux, plus marginaux, je pense, que la vétusté des locaux. Et de ce fait-là, c'est ça qui fait que dans la posture que j'ai pris par rapport à l'exercice que tu nous fais faire, Régis, je l'ai mis un peu moindre, parce que justement, je pense qu'il concerne moins de monde, et heureusement, il concerne moins de monde. Par contre, force est de constater que il est quand même de plus en plus fréquent et que du coup ça fait que moi j'ai mis je sais plus 6 ou 7 que, donc au-dessus de la moyenne parce que bah ouais cette évolution ne peut pas nous laisser indifférents et doit faire en sorte que on endigue ce phénomène, enfin ou en tout cas plutôt qu'on en endigue les causes et qu'on arrive à les cerner et voilà.
Ouais. Toi Fabien qui travaille notamment avec des chefs d'établissement dans certains programmes, il y a des éléments qui te remontent comme ça sur ces points-là très effrayants. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot.
Moi, je pensais plus globalement à la question de l'agression physique contre les personnels, en règle générale. Et moi, je pense que le niveau d'anxiété par rapport à ça, il est élevé du fait de... Mais c'est un peu ce que disait Jean-Phi, hein, du niveau de traumatisme que ça engendre chez les personnels. Et c'est rigolo parce que... Enfin, non, c'est pas du tout rigolo. C'est parce que j'ai passé pas mal de temps dans ma carrière à être dans des contextes éducatifs dans lesquels, accrochez-vous, on se battait avec les élèves. Enfin, pour le dire simplement, tu vois, c'est-à-dire que ce soit, et même avec les familles, on avait des familles violentes, on avait des élèves violents, et pour autant, les événements étaient beaucoup moins traumatisants. Mais pourquoi ? Ça me renvoie à un podcast que j'écoutais récemment, c'était Laurie Lefer, psychanalyste, qui parlait des syndromes post-traumatiques, et parce qu'on s'y attendait, tu vois, parce que ça faisait partie du boulot intégrant, en tout cas du quotidien, ça faisait partie du possible. Là où c'est très compliqué, et je pense qu'on parlait de symbolique tout à l'heure, la violence symbolique, elle vient du fait qu'on ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui consacre son temps, qui a une vocation d'aider les élèves, de les accueillir, de les faire grandir, ils puissent subir une agression. Donc je trouve que la violence, elle est à ce niveau-là, c'est le delta qui existe, en tout cas le contraste qui existe entre les missions des éducateurs avec un grand E, et puis cette violence physique qui peut s'exprimer sur eux, qui en définitive sont dépositaires de quelque chose. Je pense que souvent ces agressions-là, elles ne sont pas ad hominem, elles sont vraiment tournées vers une institution, tout un tas de motivations et pas aux personnes. Mais l'impossibilité d'appréhender l'événement et d'en faire quelque chose, de se préparer et d'avoir ce traitement symbolique de ce qui est en train de se passer, bah, ça génère des traumatismes qui sont puissants sur les individus comme sur la société. Donc on vit très très mal ces agressions de personnel éducatif.
Avant de passer au bas de l'échelle, juste pour dire que dans cette échelle moyenne, il y avait des éléments connexes à ces agressions physiques. Hein. On avait notamment le déclin de l'autorité, la valse des directives politiques. Tout ça fait que aussi des éléments délétères peuvent s'installer. Dans ce qui nous rend le moins école-anxieux, en tout cas c'était au bas de notre échelle, entre bon vent et vent d'enthousiasme, donc la moyenne était entre 0 et 3, on s'est dit, tiens, l'IA bouleverse les pratiques, devinez la moyenne pour nous trois, 1 sur 10, ça veut dire que tout va bien de ce côté-là, zéro anxiété, Jean-Phi ?
Ouais, non, j'avoue, bon, j'espère qu'un jour on aura un livre de chez Retz, l'IA, mythe et réalité. Non, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de mythologie qui est projetée sur cette intelligence artificielle et moi je le vis au quotidien dans le sens où j'entends beaucoup de choses dans les couloirs de mon institution sur les craintes que ça génère par rapport aux examens des étudiants, par rapport à tout ça et vraiment j'y crois pas. Enfin, ça fait déjà bientôt 3 ou 4 sessions d'examen qu'on fait depuis le grand boom de ChatGPT et puis enfin tu vois, j'ai pas vraiment l'impression que ça change grand chose sur le plagiat ou sur ce genre de truc. Enfin bref. Donc non, moi j'y crois pas.
En tout cas, ça a bouleversé les imagettes de Nipédu par Fabien, mais toi, plus sérieusement, côté éducation, Fabien, l'IA bouleverse pas les pratiques, enfin, bouleverse les pratiques, pas d'anxiété, pas d'école-anxiété.
Bah, en fait, je reprends ta définition, celle que tu nous as partagée au début de ta chronique, hein, où l'angoisse, l'anxiété, c'est une angoisse qui naît de la crainte d'un péril imminent et incertain. Enfin, tu vois, et Jean-Philippe l'a très bien dit, hein, il y a un espace fantasmatique. En tout cas, aujourd'hui, la place de l'IA en éducation, elle est remplie, allez, au doigt mouillé, à 85% par du fantasme et par du fantasmatique. Donc, je comprends le côté angoisse, mais je pense notamment au rapport qui a été remis à Emmanuel Macron cette semaine, pardon de situer le podcast, mais sur les 25 recommandations sur les politiques à mener autour de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai lu que la synthèse en anglais, d'ailleurs, j'étais super surpris. Et pas le rapport complet, mais on a une vision qui est plutôt pragmatique, pas du tout techno-enthousiaste, qui a été remise par les deux rédacteurs-trices du rapport. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez volontariste. Le gros point de vigilance qui a été mis en avant, c'était l'impact écologique de la technologie. Donc, voilà, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal et plutôt à l'image de la manière dont il nous faudrait aborder les questions d'IA générative. Je précise générative. En éducation, voilà, pour lever une anxiété qui va être, je crois, levée au fur et à mesure que l'espace fantasmatique va diminuer parce qu'on mettra des choses concrètement en place.
On en avait plein d'autres, il a fallu faire une sélection, on l'a faite, et vous imaginez bien qu'il y avait pas mal d'autres choses qu'on aurait envie de dire, mais c'est à vous qu'on a envie de vous demander quels sont les sujets qui vous filent le plus d'école anxiété. N'hésitez pas à nous le dire sur le répondeur de Nipédu. Jean-Philippe vous a dit comment faire. C'est tout simple, ça se fait en deux clics. Je vous propose qu'on file pour le coup vers la chronique de Nipédu.
La chronique de Nipédu.
Vivement, après-demain ! Alors les garçons, ce sont parfois les malentendus qui sont les plus fertiles. Lorsque la question de Lucas a été traduite en un thème pour l'émission de ce mois-ci, l'école anxiété donc, des formations professionnelles obligent, j'ai immédiatement pensé à tous les travaux de recherche qui s'intéressent aux nombreux et divers phénomènes anxieux qui concernent les élèves dans les écoles. Anxiété apprentissage, menaces des stéréotypes, phobie scolaire, harcèlement, etc. Et donc, pour préparer cette émission, j'ai commencé à me creuser la binette dans cette direction. Et puis, juste avant notre comité de rédac habituel, je vais forcément jeter un œil au travail des copains. Et là, oh stupeur, on n'a pas du tout compris le thème de la même manière. Et pour tout vous dire, quand je découvre comment Régis et Fabien l'ont compris, je me dis « Mais bien sûr, mais quel con, c'était pourtant évident !» Ce mot valise renvoyait à l'éco-anxiété, et donc, pour le dire vite, une anxiété pour l'avenir de l'école. Et puisqu'elle n'est pas de mon fait, je peux dire à quel point je trouve l'élaboration de ce mot très maligne pour désigner le pessimisme scolaire ambiant que tout le monde ne connaît que trop bien. Vous savez, cette sempiternelle rengaine, l'école, c'était mieux avant. Alors vite, maintenant que j'ai compris, il ne me reste plus que quelques heures avant le comité de rédac pour prendre connaissance du travail des garçons, faire quelques recherches de mon côté et venir avec mes propres idées. Et là, il se passe un truc assez surprenant, mais aussi, je dois bien l'avouer, très arrangeant. Je tombe sur des ressources qui me font rapidement apercevoir un possible lien entre les deux compréhensions du thème. Je trouve d'abord un article de 2018 écrit par des collègues politologues à partir des résultats des études PISA 2012. Non pas les résultats sur les performances scolaires, mais plutôt sur les compétences socio-comportementales des élèves. Leur confiance en eux, leur persévérance, leur anxiété, leur sentiment de contrôle sur leurs résultats, etc. Et de fait, sur tout ce que je viens de vous citer, les élèves françaises et français de 15 ans se singularisent sensiblement au sein de l'OCDE parce que l'on pourrait résumer comme étant un fort pessimisme. Ils sont plus inquiets, ne s'attribuent pas la cause de leurs échecs, ils n'ont ni confiance en eux, ni confiance en l'école. Bon, le décor est posé et je ne fais pas si bien dire. En effet, seulement quelques instants plus tard, je dégote un rapport de la Fondation Jean Jaurès datant de 2021 qui s'intitule « Déclinisme et nostalgie, un cocktail français ». Et une des informations qui retient toute mon attention est la suivante. Au sein de l'Europe, la France est en tête quant à son pessimisme social, et ce, bien au-delà de la seule école. Même nos élites intellectuelles ne s'en cachent plus. Barbara Cassin, philosophe, philologue et académicienne française, partage le sien avec ce joli calembour. Hier, c'était mieux demain. Pour dire que c'était hier que nous avions de bonnes raisons d'attendre demain, mais plus maintenant. Et un pessimisme qui apprécie donc particulièrement de prendre l'école comme objet. Sur ce terrain, certains vont même très loin. En effet, un chroniqueur des cafés pédagogiques n'hésite même pas à professer en France, comme cela a été le cas en Hongrie, le rattachement futur des enseignantes et enseignants au ministère de l'Intérieur après la disparition du fonctionnariat. Si ça, ce n'est pas du pessimisme. Alors, est-ce que j'ose faire un lien ? Serait-il possible qu'en France, l'école anxiété, une crainte de l'effondrement de l'école, soit forte et singulière parce que nourrie chez les individus dès leur non tendre scolarité ? De fait, certains arguent que la structure même de notre école, et certains des mots qui la décrivent, sont empreints de séparatisme menaçant pour les élèves. Général versus professionnel, littéraire versus scientifique, autant de distinctions qui alimentent les craintes de relégation et donc aussi ces fameuses et faibles compétences socio-comportementales perçues chez eux par les élèves français. Ces mêmes faibles compétences qui, dans le temps, sont montrées par l'étude citée plus haut comme corrélées à un plus faible taux d'emploi des individus. Alors, il pourrait y avoir quelque chose d'assez cocasse à constater. Non pas une auto-réalisation de la prophétie du déclin, mais une anté-réalisation de celle-ci. La raison pour laquelle on pourrait croire collectivement à l'effondrement futur de l'école serait parce que, pour un nombre non négligeable d'élèves désormais adultes, elle n'avait déjà plus ou pas produit pour eux ce que l'on attendait d'elle. Autrement dit, on pourrait croire à un effondrement parce qu'en fait, il a déjà eu lieu. Avouez que d'un point de vue tout à fait formel, ça claquerait si ma chronique elle s'arrêtait là, non ? Mais il en est à mes yeux de l'école comme de l'écologie. Il serait au moins tout autant irresponsable de se laisser aller au seul pessimisme que de nier qu'il y a aussi bien des raisons toutes légitimes de l'être. Tout se joue sur une ligne de crête, sur un seuil que j'évoque souvent et qui concerne ici le très difficile équilibre à trouver entre lucidité et espoir. Mais pour cette émission, je choisis l'espoir, d'autant plus que, mettons que l'école se soit effectivement déjà effondrée, alors le champ serait tout ouvert pour n'aller que vers le mieux. Il deviendrait ainsi très facile de se laisser aller à croire que demain, ce sera encore mieux après-demain.
Ah, il m'a tué le Jean-Phi. Alors après cette chronique, je sais pas, pré-post-anté-apocalyptique, parce qu'il y a un peu de ça, hein, est-ce que demain, ce sera encore mieux après-demain ou est-ce que c'était mieux demain ? Bon, bah, vous le saurez en écoutant la FAQ de la Réac.
La FAQ de la Réac.
La FAQ de la Réac. On fait une émission sur l'école anxiété, mais pour de vrai, je sais pas si l'école, elle, va mal. J'entends qu'il y a des profs et j'entends qu'il y a des élèves qui vont mal. J'entends aussi qu'il y a des profs et des élèves qui vont bien. Régis, tu nous en parlais tout à l'heure. Mais alors, quand j'ai dû préparer cette rubrique, je me suis posé la question, pourquoi j'ai intégré le fait que l'école va mal. On s'est dit école anxiété, machin, on y va, bim. Et en préparant la chronique aussi, j'en ai fini par me demander, les garçons, si l'école anxiété, c'était pas en réalité un construit, une invention, pour le dire autrement, pour ne pas dire, attention, c'est ma minute complotiste, un projet. Avant de tenter de répondre avec vous à cette question, je dois vous dire que... Déjà, j'ai pris un pied énorme à préparer le dossier qui m'a fait côtoyer des ressources, le meilleur, le pire, autour de cette question. Le dénominateur commun entre toutes ces ressources que j'ai pu consulter avec vous, sur laquelle on reviendra peut-être, c'est la nostalgie. Et du coup, c'est là-dessus que j'aimerais vous questionner, les garçons. Est-ce que vous considérez, vous définissez, vous vivez comme des nostalgiques de l'école d'antan, selon l'expression consacrée ? On va dire qu'on commence par toi, Régis.
Allez, mon premier réflexe, ce serait de dire plutôt non, d'une manière générale. Mais oui, quand même, de mon école d'antan, j'ai envie de dire comme tout le monde, un petit peu une sorte de nostalgie personnelle, nostalgie réflexive, peut-être que tu expliqueras un peu ça tout à l'heure, Fabien, parce que quand j'y repense, je revois, mais qui était déjà vieille, hein, les affiches Rossignol, les tampons de mon enfance, tout ça, donc il y a effectivement cette nostalgie personnelle, mais d'une manière plus générale, plutôt non, hein, parce qu'on oublie vite ce qui n'était pas mieux avant. Moi, je peux donner deux anecdotes toutes personnelles hein, qui résonneront peut-être avec d'autres et on pourrait élargir ça. Une drôle, une un peu moins drôle, et c'est pas si vieux que ça, enfin si, peut-être pour certains, hein, de mon école primaire des années 80, bah, il y avait encore quelques sévices corporelle, on va dire. Hein. Je me souviens de ce bon vieux monsieur Potier qui est décédé maintenant depuis longtemps, là, que j'avais en CP. Et lui, son truc, c'était de nous faire nous mettre au coin et de nous faire tenir bras tendus un dictionnaire et que les bras baissent pas. Donc vous voyez un petit peu la goutte sur le de sueur qui peut tomber. Des choses un peu plus rigolotes, mais qui seraient effrayantes aujourd'hui. De monsieur F, allez, je vais dire, c'était plutôt en CE1, CE2. Lui, il nous envoyait pendant les temps de classe aller acheter à la petite supérette du coin son camembert pour manger à midi. Ça paraît délirant, hein, mais c'est vrai, il le faisait. Et puis, je me souviens qu'il clopait aussi dans un coin de la classe, quoi. Donc, on a vite fait de dire que c'était mieux avant, puis qu'on y réfléchit un peu. J'ai pris que deux petites anecdotes, hein. Bah, c'est vraiment... C'est pour moi, pas du tout. C'était pas mieux avant. C'est jamais mieux avant.
Jean-Philippe, de ton côté, c'était vraiment pas mieux avant ?
Ouais, non, moi non plus, j'ai pas cette forme de nostalgie. Alors ma réponse, moi, elle est un peu plus organisée autour de ce qui a trait à l'apprentissage, parce que justement, je pense que, en tout cas, là encore, dans mon imaginaire, l'école d'antan, voilà, c'est l'école de la Troisième République avec des enseignements très frontaux, des exercices très répétitifs, ouais, c'est un peu tout ça, quoi. Et que même si on a certainement tiré la couverture un petit peu trop vers une forme de pédagogisme, pour le dire très très vite, je pense quand même que avec notamment des apports des sciences, de l'éducation, j'ose le dire, je pense quand même qu'aujourd'hui on a des pratiques d'enseignement et d'apprentissage qui sont plus efficaces. Alors après, ça va peut-être pas dans le sens du vent de ce qu'on dit, mais je pense quand même qu'on a des enseignements et apprentissages qui sont un peu plus sains. Donc non, moi je suis pas du tout nostalgique.
Alors Régis, toi tout à l'heure tu parlais du concept de la nostalgie réflexive en disant que j'y reviendrai un petit peu plus tard, peut-être que c'est là qu'on apporte l'éclairage qui est caractéristique de la FAQ, de la rédac. Effectivement, il y a une autrice qui s'appelle Svetlana Boym qui a réfléchi à ces questions de la nostalgie et elle distingue deux types de nostalgie. La nostalgie réflexive, donc c'est celle dont tu as parlé tout à l'heure, hein, elle est faite de réminiscences plutôt positives, associée à une forme de souvenir sensoriel avec une patine du temps, et tout ça, ça contribue à sublimer les souvenirs. Et elle parle de l'autre côté d'une nostalgie restauratrice. Alors celle-ci, elle est un peu plus dark puisqu'elle elle considère ce passé comme un marqueur mémoriel et émotionnel très très fort qui inspire la stabilité et donc qui devrait être un élément inspirant ou duquel on devrait s'inspirer pour faire vivre le présent au mieux. Et du coup, c'est là où je voulais en arriver avec vous, c'est que on constate à partir notamment d'un certain nombre de réformes ou d'expérimentations que l'on nous propose en France ici, des espèces d'accents passéistes, en tout cas qui laissent entendre que le passé scolaire avait quelque chose de sublime, il y avait un âge d'or du passé scolaire fait de bonnes solutions qu'il faudrait remettre en place. Donc ça, effectivement, ça, c'est pas mal de le questionner, mais on voit qu'il y a une tendance à vouloir répondre à une forme de rumination, de pessimisme social ou de pessimisme scolaire, voire de déclinisme scolaire. Régis, tu en parlais dans une émission toute récente. Et ça, est-ce que c'est pas un peu ce côté obscur de la nostalgie, vous le sentez, vous, le discours, ce pessimisme scolaire, ce déclinisme scolaire ?
Écoute, oui, forcément, parce que bah, c'est le côté un peu, on va dire, démagogique, parfois extrême droitiste, de c'était mieux avant, avec ce paradoxe quand même que moi je note, hein, autour de cette question-là, c'est... Souvent, les c'était mieux avant n'étaient jamais au pouvoir, hein, si je prends l'exemple de l'extrême droite. Donc, c'était mieux avant, c'était mieux sans eux, hein, puisqu'ils n'étaient pas au pouvoir. Donc, oui, de ce côté-là, je dirais, je ferais bien cette petite pirouette sur le c'était mieux avant. Mais je raccrocherais peut-être ça aussi à peut-être une, et ça résonne avec la chronique de Jean-Phil, hein, peut-être une nature pessimiste des Français. En tout cas, ce pessimisme social qui est parfois ancré chez nous. Du coup, très facile à nourrir démagogiquement, hein. On fait entendre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, ça se mange bien, ça se digère bien, c'est très facile, mais ça fait beaucoup de mal pour le coup. Ce fameux c'était mieux avant qui s'ingère comme un bon gros burger. Donc, En tout cas, je l'entends comme ça dans ce que tu me demandes sur ce point, Fabien. J'aimerais bien entendre Jean-Phil, là, pour le coup.
Ouais, bah, moi, je te rejoins, et puis je crois que j'ai envie de reboucler et de pousser un petit peu plus loin avec ce que je disais plus tôt, c'est qu'en effet, je pense qu'il y a une forme de discours face à certains phénomènes, d'ailleurs, mais je crois qu'on évoque depuis le début de l'émission, qui sont des phénomènes qui peuvent être assez marginaux, mais extrêmement effrayants, et à prendre très au sérieux, bien évidemment. On a envie, et puis pour le coup, ça peut s'entendre, on a envie de rassurer les gens, et en effet, on les rassure avec des discours et des solutions simplistes, au sens de trop simple. Notamment, là encore, ouais, pour boucler avec ce que je disais un peu plus tôt, voilà, on a envie de fouetter certaines méthodes, soi-disant pédagogie de la découverte, ce genre de trucs qu'on fait perdre tous les savoirs à nos élèves, machin, etc. Ou alors, bon, y a d'autres types de discours, peut-être encore plus nauséabonds, que j'ai pas, même pas forcément envie de dignifier avec une verbalisation ici, mais voilà, mais je pense qu'il y a, ouais, je crois beaucoup en une espèce de simplification du discours pour essayer de avec une certaine forme d'opportunisme électoraliste, certainement. Mais au bout du compte, si on regarde ça avec un peu de discernement, je pense que le fait que l'école aille dans le sens dans lequel elle va, c'est multifactoriel et que rien n'est simple et que finalement, ce qui est peut-être moins bien aujourd'hui était mieux hier et inversement, et que bon an, mal an... la nostalgie, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne solution.
Ouais, moi je veux bien rajouter juste en une phrase, Fabien, c'est j'y vois peut-être parfois aussi un côté à se rassurer ou plutôt se dédouaner. N'importe qui peut penser à soi, mais l'idée que si c'était mieux avant, si ça marche moins bien maintenant, si c'était mieux avant, tout n'est pas de notre faute, je peux rien y faire. Une forme de d'aquabonisme derrière ça, qui du coup dédouane tout le monde, et avec ce genre de pensée, on va vers le pire, hein, pour le coup. Donc, je réitère ce que je disais au début, pour moi, c'était pas mieux avant.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai entendu récemment un épisode de Enquête de politique qui parlait justement du déclinisme, et dans lequel Thomas Legrand et son invité parlaient de la nature... de l'inertie qui était contenue dans ce type de discours décliniste. C'est-à-dire que le déclinisme, il ne t'engage jamais dans l'action, tu vois. Donc on peut avoir, effectivement, on est jamais dans une forme de déséquilibre avant, de marche en avant, mais plutôt sur un frein qui aurait tendance à avoir, tu vois, un résultat d'inertie. Et du coup, là, on est vraiment dans un cercle très, très vicieux de... on disait que c'était mieux avant, on essaie de ne rien faire ou d'appliquer des vieilles formules qui finissent par ne pas fonctionner. Maintenant qu'on a posé le cadre, les garçons, moi, je voudrais savoir si vous avez des trucs, j'ai marqué des trucs et astuces, là aussi, c'est encore un peu trivial comme formule, mais en gros, est-ce qu'on serait capable, tous les trois, de poser un mini manuel d'autodéfense intellectuelle pour lutter contre le passéisme, le discours décliniste scolaire, ce pessimisme social et scolaire, enfin social autour de l'école, en tout cas, qui est... générateur d'école anxiété, laquelle peut servir, Régis, tu as mentionné un terme politique tout à l'heure, alors que tu nous as dit en off de bien faire attention, de ne pas politiser l'émission, mais c'est toi qui tends le bâton pour qu'on puisse se battre.
Mais à culpa.
Ça peut aussi servir, ce discours de déclinisme, on voit qu'il sert aussi potentiellement des intentions politiques, puisqu'on l'entend notamment aujourd'hui dans beaucoup de discours de responsables politiques. Au pouvoir ou pas au pouvoir, d'ailleurs. Alors, manuel d'autodéfense, les garçons, vos trucs et astuces ?
Le premier qui me vient, je voudrais pas qu'il soit mal compris. J'ai envie de dire, ne jamais arrêter de travailler. C'est-à-dire que, en l'occurrence, étant donné mon travail, c'est-à-dire qui concerne... réfléchir sur l'école, plus particulièrement sur ce qu'est l'enseignement et les apprentissages, et puis le faire en présence de futurs ou actuels enseignantes et enseignants. Ça fait que je perds jamais le contact avec le terrain, avec une forme d'utilité de ce à quoi peut servir mon travail. Et même si je n'ai aucune ambition à contribuer, à stopper le déclinisme, on va dire comme ça, moi ça me donne espoir en fait. Et puis je rejoins ce que je disais à la fin de ma chronique, je pense qu'il faut à la fois être lucide, voir les difficultés, etc., mais aussi voir toutes les petites choses ici et là qui marchent, et puis continuer, parce que il y a toujours des choses qui en valent la peine en fait au quotidien. C'est peut-être des toutes petites choses, mais s'attacher aux petites choses qui font du bien.
Ouais, moi je rebondis, c'est en lien direct, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Moi j'avais noté bouger, évoluer, se transformer, dans le fait que je disais un peu plus haut, c'est une nature aussi hein, d'être plutôt pessimiste ou pas, et donc de bouger, d'évoluer, de se transformer. Je fais un petit parallèle, j'aurais peut-être pu même le mettre dans mon fun fact pour le coup. Là je lisais un tout petit truc sur les facteurs de motivation d'Herzberg, et juste pour vous donner les éléments, parce que ça... C'est vraiment en lien direct, j'ai trouvé. Donc, il y a des facteurs de mécontentement et des facteurs de satisfaction. Et du côté du mécontentement, sécurité, niveau de salaire, conditions de travail, etc. L'idée de dire que ces facteurs-là, ils précisent juste le fait qu'il y a une absence d'insatisfaction. Par contre, du côté des facteurs porteurs de satisfaction, développement des compétences, enfin bouger, l'avancement, la responsabilité, ce sont ces facteurs-là qui sont dits intrinsèques, qui sont porteurs de satisfaction. Et ça rejoint ce que je dis, c'est-à-dire de sont ces éléments-là, là, se transformer, bouger, faire évoluer, pas arrêter de travailler, comme l'a dit Jean-Phi d'une autre manière, qui amènent ces satisfactions et qui, nous mettent dans ce dynamisme de anti-déclinisme. Alors, peut-être pas anti-déclinisme, mais en tout cas, de pas être de ce côté-là de la crête, pour reprendre encore une fois l'imagerie de Jean-Phi. Donc, c'est plutôt ça, voilà, de ne pas arrêter de bouger et d'évoluer, de se transformer.
J'ai trouvé dans un article dont on vous mettra les références dans les notes de l'émission, qui s'appelle « Nostalgie et remédiation du passé en politique » ou « Le danger des abus de la mémoire ». Alors, on a beaucoup, beaucoup de littérature en sciences politiques qui va décrypter les messages politiques, notamment du côté du déclinisme. Et là, c'était... l'analyse de la vidéo de campagne d'Éric Zemmour. Alors, je suis désolé, Régis, hein, on en finit par parler politique, mais pour cette rubrique, j'ai lu aussi le programme du Rassemblement National pour l'école. Hein. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de ressources. Je disais tout à l'heure en intro du bon et du moins bon. Je laisserai les poditrices et poditeurs juger. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cet article d'analyse de la vidéo qui est beaucoup basé sur cette question de retour à un âge d'or, alors pour la société française en général, mais on pourrait l'appliquer au discours décliniste et nostalgique de l'école, nostalgie restauratrice et pas réflexive. J'ai noté un certain nombre de structures narratifs et de structures sémiotiques qui sont propres au déclinisme et sur lesquelles moi j'aimerais inviter à faire attention. En tout cas, quand vous les entendez dans un discours, c'est potentiellement des mécanismes rhétoriques. En tout cas, ce sont des stratégies pour pouvoir, ce que tu disais Régis dans la première partie, hein, essayer de convaincre le plus grand nombre avec des choses qui sont faciles à comprendre, à appréhender, donc qui rassurent. Alors, je vous les livre comme ça. Il y a l'édulcoration d'un certain nombre de choses qui se passaient avant et sur lesquelles on passe rapidement. Bien sûr, l'omission, des flous, des approximations. Il y a de la décontextualisation aussi. On prend un truc, on dit que c'était génial, mais on omet tout ce qui peut se passer à côté. Le présent, il est toujours chaotisé, c'est-à-dire qu'on fait une version exagérément dégradée du présent et terrifiante. On convoque toujours des grandes figures, une stratégie d'héroïsation de personnes qu'on peut charger et qu'on peut fictionnaliser à l'envi. Une dialectique avant on avait, maintenant on n'a plus. Des choses, le manichéisme, le bien, le mal, qui en veux-tu, en voilà. Toujours l'opposition entre, alors ça c'est intéressant, l'opposition entre un nous et une communauté d'opposition. Et ce nous, c'est souvent, alors ça c'est hyper intéressant, la question de la communauté mémorielle. C'est de ceux qui se souviennent, la communauté mémorielle, c'est ceux qui se souviennent ensemble. Sauf que quand on creuse un petit peu, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que souvent, cette communauté mémorielle, celle qui a une mémoire culturelle en partage, et ben, cette mémoire culturelle, c'est sans doute davantage la somme de tout ce qu'on a oublié et qu'on est d'accord pour se souvenir qu'on a oublié ça ensemble que de ce qui a réellement existé. Donc c'était un petit peu, c'est un peu compliqué, mais ça porte aussi le nom de la métamémoire. Donc en fait, on se crée une mémoire commune, on se persuade que ça a existé, alors que c'est plutôt une somme des oublis que de choses qui ont réellement existé.
Je vous propose de clore ici cette FAQ de la rédac, et sur ce, on a envie de vous demander, et vous, est-ce que vous êtes réac, nostalgique, décliniste, école anxieux, ou tout le contraire, je sais pas. En tout cas, si vous êtes du côté plutôt obscur de la force, on va essayer d'y remédier avec la reco feel good de la rédac.
La reco de la rédac.
Allez, au les cœurs, Jean-Phi. Pour lutter contre l'école anxiété, qu'est-ce que tu nous as chiné de feel good ?
Moi, elle sera musicale, Marocco, cette fois-ci. Alors, j'ai été pris d'un doute. Je sais que c'est un groupe dont je vous ai parlé au moins en off. Et ai-je déjà conseillé le premier album il y a 2 ans lors d'une reco ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais maintenant parler du deuxième album qui date de l'année dernière. Le groupe s'appelle Tom McGuire and the Brassels. Et ça avait vraiment été un gros coup de cœur il y a 2 ans. Et là, leur deuxième album est vraiment cool. Et notamment, en termes de feel good, je ne peux que conseiller la chanson qui s'appelle « Better ». Constant flux trace instantaneous entities. My saddest self created an anchor. Qui est vraiment, mais pour moi, le summum du truc. Franchement, cette chanson, elle est dans mes playlists depuis 1 an et elle tourne. Enfin, je peux l'écouter une fois tous les 2 jours. Elle me lasse jamais tellement. Elle a, je trouve, une vibes de ouf. Et d'ailleurs, qui est hyper bien mise en image par le clip, qui ressemble, enfin qui incarne le groupe, enfin qui représente le groupe dans sa plus, c'est un groupe à la fois hyper exigeant musicalement parlant, mais hyper décontracté, enfin, et le clip de ce point de vue-là est absolument génial. Donc voilà, Tom McGuire and the Brassels, le deuxième album, j'ai pas dit le nom, s'appelle Stay Rad, qui est une expression qui veut dire reste génial. Donc je trouve ça assez cool. Et vraiment cette chanson Better et son clip, enfin ouais, sont pour moi vraiment le petit coup de boost qui va bien. Qui va bien.
Ben avant d'écouter Fabien, j'y vais, je me lance. Moi, c'est... On a parlé d'anxiété. Moi, c'est la mélancolie qui est le remède à l'anxiété. Et c'est pas du tout la même chose, hein, pour le coup. Donc, j'ai choisi Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, issu de quelque chose dont j'ai déjà parlé, effectivement, dans un épisode de Nipédu, dans une reco, La Tour de Babylone de Ted Chiang. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que je l'ai revu il y a quelques jours, et comme on était dans la préparation de cet épisode, pas depuis quelques jours, là, pour le coup, depuis plusieurs semaines, je l'ai revu avec ma fille.
Je pensais que c'était le début de ton histoire. La mémoire est une chose étrange. Elle ne fonctionne pas comme je l'imaginais. Nous sommes tellement esclaves du temps, de sa nature.
Et voilà les raisons pour lesquelles je les ai mis. J'ai fait ce choix de côté feel good. Bah déjà parce que c'est un pan de la SF que j'adore, parce qu'il mêle en fait l'intime, l'émotion à des aspects un peu de pur SF, et que ça fonctionne super bien pour un fan de SF comme moi, mais pour tout le monde. Pour le coup, il y a un côté très grand public, je trouve, de ce film. Parce qu'il y a une réplique que j'ai trouvé extraordinaire dans le contexte du film, hein, où un des personnages dit: j'avais oublié ce que c'était d'être dans tes bras. Et elle dit ça à quelqu'un qu'elle prend pour la première fois dans ses bras. Faut voir le film pour comprendre, et j'ai trouvé ça magnifique. Pour pas spoiler, et pour être dans ce c'était mieux avant que c'était mieux peut-être après que avant, et pour pas spoiler sur ce film qui parle notamment de la question de temps, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, et que même si c'est pas mieux après, c'est quand même mieux parce que c'est après. Voilà, vous irez voir pour comprendre ça. Et puis parce que c'est du pur cinéma, moi je suis un, vous l'avez peut-être entendu dans mes différentes recos, je suis un vrai fan de Denis Villeneuve, je trouve qu'il fait vraiment du cinéma. Et en plus là, il adapte d'une une autre œuvre culte de SF, donc moi ça me met trop la banane, donc j'espère qu'à vous aussi. En tout cas, je vous conseille d'aller voir Premier Contact. Et toi Fabien, alors, Feel Good
bah, non, pas Feel Good, parce que j'avais oublié le thème de la reco de la rédac. Donc, je suis allé comme une nouille. Je vois la tête de Jean-Phi. En fait, moi, j'étais sur ma lancée. Donc, j'étais toujours sur cette question de la nostalgie. Et j'ai entendu récemment un reportage sur le succès du morceau « Voix sur ton chemin ». Je suis désolé, le morceau du film « L'écoriste » que vous connaissez bien et qui fait un...
Et que vous entendez.
Et que vous entendez et qui continue à faire un tabac dans les chorales scolaires. Et je me suis souvenu d'un article que j'avais lu dans Le Monde qui était une forme de critique du cinéma scolaire français qui jouait beaucoup sur la nostalgie. On va pas égrener les films, mais Être et Avoir, etc. Vous vous souvenez de cette grande vague entre les années 2010 et 2020. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est rigolo parce qu'on est face à un cinéma qui n'est pas capable de raconter des histoires à l'école, de lui inventer des histoires qui lui permettent de se projeter dans un autre futur. Et au même moment, je lisais un excellent article de l'excellent Thomas Negaroff. Donc, c'est plutôt là, Marocco, c'est plutôt sur Thomas Negaroff, sa vie, son œuvre. On le retrouve au grand face-à-face sur France Inter et aussi dans ses politiques le dimanche soir. Et là, il écrit un article pour le 1 Hebdo, un 1 Hebdo qui s'intitule « Attention, la Reco Feel Good, qui peut arrêter Donald Trump ?» Et dans cet article, il décrit de quelle manière le rêve américain est en panne, et ça, il le mesure à la qualité des productions hollywoodiennes qui sont elles aussi des remakes, des vieux films, des machins. Et du coup, il dit, cette incapacité d'Hollywood à raconter de nouvelles histoires, elle est symptomatique d'une société qui est en panne. Et j'ai fait le parallèle avec cette nostalgie scolaire dans le cinéma français, et je me suis dit, la boucle est bouclée, j'étais peut-être tellement content de mon truc que j'ai oublié le thème de la reco, je m'en excuse les garçons.
C'est beau, en tout cas, c'est beau.
Ça va qu'elle était bien, hein. Ça va qu'elle était bien. Et puis si les poditeurs et poditrices maintenant ils écoutent Better de Tom Maguire and the Brassholes, ils iront vachement bien de toute façon.
Ouais, voilà, on leur conseille ça en numéro 1. En tout cas, nous on se retrouve dans un mois tout pile, j'ai envie de dire, puisque c'est le contrat. On vous parlera des nudges en éducation. Allez voir si vous savez pas encore ce que c'est, les nudges en éducation. Toute une histoire. Bon, en tout cas, on sera content de vous retrouver. Et d'ici là,
gardez la pêche
et crachez le noyau. Non, en fait, je crois que ce qui m'embête plus, c'est pas tant le titre que la chute.
Ça, c'est dans un film, non?
Ouais.
Je l'ai vu aussi.
Vivement après-demain!